Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Donc on va commencer et on va démarrer directement sur l'Apocalypse. Et puis je vais vous faire une très brève introduction et ensuite je vais vous mettre en garde avec 10 choses qu'il faudra savoir quand on étudie ce livre. Alors, si vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, eh bien, vous avez tous un titre qui dit Apocalypse de Jean. Alors, Apocalypse de Jean. En fait, le mot qui a été traduit en français par Apocalypse, eh bien, c'est le mot grec apocalypsis. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été un terme arrangé, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle une translittération. C'est-à-dire qu'on prend un mot avec une racine grecque et puis on arrange ça à la sauce avec les différentes langues, avec les débuts de mots ou les fins de mots. Mais en fait, dans beaucoup de langues, l'Apocalypse de Jean a été traduit par Révélation de Jean. Parce qu'en fait, Apocalypse, ça veut dire non pas les grands malheurs sur la terre, mais ça signifie révélation. Et en grec, le mot révélation, ça veut dire quelque chose qui est dévoilé. C'est-à-dire, vous avez quelque chose, mais il y a un voile dessus. Donc, vous voyez le voile, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Et d'un seul coup, Dieu va enlever le voile. Et on va pouvoir voir ce qu'il y a. C'est ça que ça veut dire. Révélation, c'est ça que ça veut dire. Une révélation, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, entre guillemets, quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose que Dieu connaît, mais que nous, avec nos yeux de chair, nous ne pouvons pas voir. Ou que nous ne pouvons pas entendre avec nos oreilles. Et donc, Dieu va faire la grâce à certaines personnes, on va en parler un peu plus tard, de pouvoir enlever le voile et que ces personnes puissent voir ce qu'il y a. Vous savez, Dieu est un Dieu d'éternité. Il y a une différence entre la créature et le créateur. Il y a un immense fossé. Le Créateur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est à l'origine de toute chose. La créature provient du Créateur. Et Dieu a des attributs. Entre autres, l'omniscience. C'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses. Et nous allons découvrir que Dieu révèle une partie de ces choses à l'homme. Comme il le veut. Quand il le veut. Nous allons revenir sur ce thème révélation un peu plus tard. Donc, Apocalypse, révélation de la part de Jean. Dieu va montrer cette connaissance. Il choisit quelqu'un. Il va amener cette connaissance devant les hommes. L'Apocalypse, ça a été le livre qui a été le plus commenté sur la terre au niveau de la Bible.
Igitabo cyo muri Bibiliya cyavuzwe ko byinshi cyane ku isi nzima ni igitabo cy'ivyashuwe
hano. Les pires sectes sataniques l'ont utilisé.
Utudini diri twose Satani yatanguje twaragikoresheje iki gitabo.
Mais ça a été aussi beaucoup commenté par les chrétiens.
Ariko n'abakristo nabo nyene bagiye barakivuga ko byinshi.
Par les serviteurs de Dieu.
Abakozi b'Imana barakivuze ko byinshi.
Il y a plein de commentaires et plein de livres qui ont été écrits sur l'Apocalypse.
Hari ibintu byinshi byavuzwe n'ibitabo byinshi byanditswe bahereye.
Il y a même beaucoup de films qui s'appellent Apocalypse quelque chose.
Hari n'amasinema menshi usanga yitwa ngo Apocalypse bikurikira n'ibindi.
Ce livre a fait couler beaucoup d'encre et a été sujet de beaucoup de commentaires et de beaucoup d'inspiration. Bonne et mauvaise.
N'igitabo rero novuga cyanditswe ko byinshi cyavuzwe ko byinshi cyahumeke n'abantu benshi mu buryo bwiza canke bubi.
Alors en fait, la Bible représente le message que Dieu a donné à l'homme.
Ariko Bibiliya uri kurayiraba irimo ubutumwa Imana yahaye umwana w'umuntu.
Dieu a transmis sa parole.
Imana yatanze ijambo ryayo.
Aux hommes. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, c'est la lettre de Dieu pour vous. Elle s'adresse aux hommes en général, mais quand vous l'ouvrez, ça s'adresse à vous. Et il y a un livre des commencements qui est la Genèse. On sait par où tout a commencé. Mais il y a aussi un livre qui clôture ce que Dieu a voulu dire aux hommes. Dieu a voulu écrire un certain nombre de choses pour nous donner de la connaissance. Et ça a commencé par la Genèse. Le premier verset de la Genèse nous dit « Au commencement, Dieu ». Et Dieu va clôturer la révélation qu'il a voulu donner à l'homme par un livre qui s'appelle La révélation. Dans lequel il va nous montrer des événements prophétiques. Et nous expliquerons ce que ça veut dire la prophétie. Je vais vous expliquer énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de termes, de mots qui sont utilisés qui ont une signification très précise pour Dieu.
Dans ce livre.
Et au travers de ce livre, je vais vous expliquer l'histoire du royaume de Dieu. Et la finalité de ce royaume. Vous découvrirez que toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Le royaume de Dieu. Là où Dieu règne. Là où Dieu va faire une créature. Et où il va se passer plein de choses. Mais la Bible, c'est l'histoire du royaume de Dieu. Et Dieu soit béni parce que dans l'Apocalypse, Dieu va nous donner la finalité éternelle de ce royaume. Et souvent, je vais faire un rappel sur cette notion du royaume. Parce que l'Apocalypse ne peut pas être comprise. Si jamais vous ne connaissez pas la, je dirais, l'histoire globale du royaume de Dieu. Donc nous referons appel à certaines notions du royaume de Dieu. Mais Dieu a mis dans ce livre sa victoire totale, irrévocable et l'implantation complète de son royaume. Comme le dit Dieu dans sa parole, c'est la fin de toute chose. Comme Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous découvrirez que nous sommes dans une immense bataille aujourd'hui. La guerre spirituelle entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et nous allons découvrir que l'Apocalypse va nous donner des événements prophétiques sans précédent à propos du point final de la victoire totale de Dieu.
Kubijanye n'intsinzi ya nyuma naho Imana izoshira akaburungu ku makuru yose kuri kahise kisi.
Donc il y a 10 choses qu'il faut savoir quand nous étudions l'Apocalypse auxquelles nous allons veiller régulièrement.
Hari bintu 10 rero dukeneye kumenya igihe cyose wugura igitabo cy'Ibyahishuro Yohana tugiye kuvuga ko.
Numéro 1.
Ikintu cy'ambere.
D'abord faut comprendre.
Ikintu cy'ambere no kumenya.
Que l'Apocalypse.
Nugutahura ko.
Comme je le disais juste précédemment, c'est le livre de l'histoire finale, l'accomplissement de toute chose.
Nukumenya ko iki gitabo Ibyahishuro Yohana kivuga kwirangizwa, kugusozegwa kw'ibintu byose.
L'objectif est de que Dieu puisse vivre avec un peuple.
Intumbero Imana ivuga iti ndagomba kubana n'abantu
qu'il s'est acquis par le sang de Jésus.
Abantu yironkeye kubw'amaraso ya Yesu.
Et ce peuple a choisi de le suivre tant qu'il était sur la terre.
Abo bantu bakaba barahisemo kuyikurikira bakiri kuri nosi.
C'est pour ça que nous sommes dans une guerre spirituelle.
Nico gituma mvuga nti turi mu ntambara mu buryo bw'impwemu.
Où Dieu amène son évangile, sa bonne nouvelle partout dans le monde. Il propose le salut aux hommes. Et les hommes peuvent dire oui ou non. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, même des chrétiens,
c'est
qu'il y a une incidence éternelle absolument incroyable. La destinée éternelle des êtres humains. Nous découvrirons que Dieu a une propriété qui est ici sur la terre. Et qu'il a voulu établir son royaume sur la terre. Et que ce royaume a été gâché. Mais quand Dieu a décidé d'établir son royaume sur la terre, il n'a pas changé d'idée depuis. Et la fin de l'Apocalypse va nous montrer une totale, je dirais, un accomplissement total du royaume de Dieu sur la terre, mais pas dans cette condition-là. Donc ceux qui auront reçu Jésus comme sauveur tant qu'ils sont sur la terre pourront profiter de cette victoire finale absolument phénoménale. Ensuite, numéro 2, ce n'est pas un livre de catastrophe. Parce que vous savez, quand il y a une catastrophe, on dit ah, c'est l'Apocalypse.
Iyo habaye nk'amakuba ahantu kanaka amasanganya akomeza nyamugiga imbaraga bavuga ngo habaye apocalypse.
Les hommes ont fait de l'Apocalypse le livre des catastrophes.
Bafashe iki gitabo bakifata nk'aho mengari gitabo kivuga amakuba gusa.
Mais ça n'a rien à voir. Nous allons étudier les catastrophes dans les systèmes de ce monde aujourd'hui.
Tuzovuga tuvuge ingene amasanganya n'ibintu bikomeye biba kuri nosi.
Et nous allons voir comment Dieu lui va juger la terre. Et les habitants de la terre. Pendant cette période que nous verrons qui s'appelle la tribulation. Et nous verrons effectivement que la parole de Dieu dans l'Apocalypse va nous montrer ces 7 années de tribulation et comment sur la terre il va y avoir une confrontation de puissance où Dieu va venir juger la terre. Et nous verrons pourquoi. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. Parce que trop de gens lisent l'Apocalypse ou entendent parler de l'Apocalypse. Ils prennent n'importe quel événement du jour. Ils font un mélange épouvantable. Non, ce n'est pas un livre de catastrophe. C'est un livre qui nous parle du royaume de Dieu. Ensuite, numéro 3, c'est un livre où Dieu exerce ses jugements. Dieu va exercer ses jugements. On verra que ce n'est pas le diable et les démons qui vont jouer un rôle pour exercer les jugements de Dieu. Non, pas du tout.
Oh, yeah.
On verra que c'est Dieu qui va exercer ses jugements. On fera d'ailleurs des comparaisons avec ce qui s'est passé quand Dieu a utilisé Moïse pour les 10 plaies d'Égypte.
iby'imanza z'Imana ugereranije by'Imana ugereranije n'ibyo Mose yaciyemo bakiri muri Egiputa.
On verra clairement cette différence parce que beaucoup de gens ne comprennent pas.
Tuzobona ubwo budasa kuko benshi ntibabitahura.
Ils font tout un mélange.
Usanga babivanganya babivangatiranya cyane.
Non, il faut pas faire de mélange.
Oya ntidukwiye kubivangatiranya.
Dans l'Apocalypse, au moment de la tribulation, Dieu va envoyer ses jugements.
Mu byahishura Yohana mu gihe cihamwa Imana nizorungikya imanza zayo.
Il y aura cette confrontation très sérieuse.
Habe rero intambara ikomeye.
Numéro 4.
Ubwa kane.
C'est la révélation de la gloire de Dieu.
Nihishugwa y'ubwami bw'Imana.
De particulièrement Christ glorifié.
Ibyashuye Yohana byerekana Kristo yahawe icyubahiro.
Nous verrons que Jésus ressuscité et Jésus glorifié, ça va être très différent.
Tuzobona ingene Yesu azutse na Yesu yambaye ubwiza bwiwe ari abantu babiri batandukanye.
On verra la gloire qui nous est montrée dans le ciel.
Tuzobona ubwiza canke icyubahiro batwerekana mu ijuru.
Et d'ailleurs, on va découvrir des révélations de ce qu'il y a au troisième ciel.
Twongere tubone turabe ihishugwa y'ibiri mu ijuru rya gatatu.
Au travers de ce livre.
Biche muri iki gitabo cy'ibyahishuro hano.
Comme nous n'en avons jamais eu dans le reste de la parole de Dieu. Dieu va nous donner des détails dans l'Apocalypse. Sur des scènes célestes. Absolument incroyables. Ensuite, numéro 5. Là aussi, il faut faire attention. Ce livre n'est pas forcément chronologique. Mais c'est une succession de visions.
Ariko ni urukurikirane rw'ihishugwa giyerekwa
que Jean va recevoir
rw'ibyo Yohana yagiye araronka
ce qui était
ibyari byarabayeho
ce qui est
ibihari
et ce qui vient
nibigira bibe.
Donc il faut faire attention quand on lit l'Apocalypse.
Urumva n'ukugaba iyo umuntu ariko arasoma ibyahishuye Yohana
il y a certaines choses qui sont déjà produites
hari ibintu byamaze kuba.
D'autres qui sont actuels quand Jean reçoit sa révélation. Et d'autres qui sont ce qu'on appelle les prédictions, c'est-à-dire qui prédisent le futur, des événements futurs. Je vais vous montrer quelque chose d'important dans l'Apocalypse. C'est à propos de la volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion dans la tête et le cœur des chrétiens. On va voir ce que c'est que la volonté de Dieu, on va voir ce que c'est que la souveraineté de Dieu. Donc il faut faire attention, ces événements ne sont pas forcément chronologiques par rapport au chapitre. Beaucoup le sont, mais il y a des moments où il y a des parenthèses dans l'Apocalypse où on revient en arrière
ou
parfois dans les visions il y a des choses qui sont décrites et qui sont sur une période assez longue alors que juste quelques versets avant on s'était concentré sur un point de la révélation. Ensuite, numéro 6, ce livre est rempli de symboles. Et Jean va les décrire avec la connaissance qu'il avait à l'époque. Toutes ces choses-là, on va en parler régulièrement. Mais je vous dirais, au fait, je vous ai dit, au début, il fallait faire attention à ça ou ça. Donc, parce qu'il y a des choses, vous savez, Jean va écrire l'Apocalypse.
Yohana yaranditse iki gitabo cy'ibya
Yesu. À la fin du 1er siècle, c'est-à-dire on estime que c'est à peu près en 95 après Jésus.
Yobaya tacanitse nko mu 95 umwaka wa 95 nyuma ya Yesu.
Les théologiens situent ce livre à peu près à la fin du 1er siècle.
Bavuga ko yobaya tacanitse mu mpera y'ikinjana cya mbere.
Et Jean va voir des choses.
Yohana rero hari ibintu yabonye.
Qui certainement nous concernent nous.
Nibaza ko twebwe biturabo.
En tout cas les générations futures. Qui ne sont pas très loin de nous. À l'époque, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas de guerres telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Toutes ces choses-là n'y étaient pas, les avions, comme il le dit. Alors, il faut faire attention parce que lui va voir des choses qu'il va décrire avec la connaissance de ce qu'il avait. Parce que ça fait 2000 ans quasiment, un peu moins de 2000 ans, 1900 ans et quelques, que l'Apocalypse a été écrite. Entre temps, il y a des choses qui se sont produites au niveau des hommes et de l'évolution des sociétés. Alors, septième chose, ce livre n'est pas là pour nous faire peur, nous les chrétiens. Mais il est là pour nous montrer le règne éternel dans lequel nous allons pleinement participer. Par contre, c'est aussi un avertissement pour les pécheurs. Pour leur dire, attention, il y a des choses qui vont se produire. Jésus va revenir. Nous allons être enlevés. Nous parlerons de l'enlèvement de l'Église, bien sûr. Il va y avoir la première phase de la première résurrection d'entre les morts. Première phase. Il va y avoir la tribulation. Si vous n'êtes pas enlevé, vous allez voir ce que vous allez subir. Donc c'est aussi pour nous, pour prévenir les pécheurs, pour qu'ils se repentent. Au travers de cette connaissance, ça va vous donner tellement de connaissances sur le monde invisible et sur les événements prophétiques que vous pourrez dire à quelqu'un, tu sais, Jésus t'aime, voilà le royaume éternel qui nous réserve. Mais si tu ne reçois pas Jésus, si tu ne nais pas de nouveau, si tu n'entres pas dans son royaume, alors tu risques de vivre ces choses. Nous verrons comment des gens qui ont entendu l'évangile, alors que l'Église aura été enlevée et qu'ils entreront dans la tribulation, regretteront amèrement de ne pas avoir reçu Jésus. Alors ils crieront à Dieu. Mais on verra les persécutions que ces gens-là vont subir. Les choses extrêmement difficiles du début de la tribulation. Donc pour nous, ça ne doit pas faire peur. Au contraire, nous, c'est le livre de notre victoire. C'est le livre qui nous explique que nous serons face à face avec lui, avec notre corps ressuscité et glorifié. C'est le livre qui nous dit que Dieu sera tout en tous. C'est le livre qui nous montre la Jérusalem céleste qui viendra sur cette terre qui aura été recréée sur sa surface. Et nous verrons quand la Bible parle de nouveaux cieux et nouvelles terres que le mot grec nous montre un renouvellement. Pour nous, c'est la libération totale des systèmes de ce monde. Tout ce qu'on a pu voir, tout ce qui peut nous affecter, tout ce qui peut nous faire mal aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de larmes. La Bible nous montre qu'il n'y aura plus de péché, de malade, de quoi que ce soit. Mais c'est un livre qui nous donne beaucoup d'espoir. Donc j'en viens au point 8, c'est ce livre qui nous montre la gloire qui nous est réservée dans l'éternité. Ce livre va nous montrer la gloire que nous allons vivre pour l'éternité. Et ça doit nous donner de quoi réfléchir. Parce que quand tu comprends et que tu as une révélation de l'éternité, alors il y a quelque chose qui est déclenché dans ton cœur. Tu as vraiment le désir de vivre à 100% pour lui.
Parce
que tu comprends que tu es étranger et voyageur sur cette terre. Tu comprends une chose. C'est que tu dois parler de Jésus autour de toi. Tu comprends cette guerre spirituelle. Tu comprends les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre pleinement pour Dieu en l'aimant de tout ton cœur sans avoir une révélation sur l'éternité. Et c'est ce que ce livre nous donne. Moi, quand je lis ce livre, j'aime voir les choses. Ce que j'aime, c'est voir la gloire. Comment nous serons dans l'éternité. Ça m'inspire. Ça me donne de l'espoir. Ça me donne du feu pour vivre pour lui. Et c'est ce que ce livre doit produire en vous. Contrairement à ce qu'on peut entendre. Ce livre aussi, neuvième chose, montre au pécheur qu'il doit se repentir.
Et
sinon, il connaîtra la mort éternelle. Le jugement dernier est une réalité. Beaucoup de gens veulent prêcher l'évangile en disant « Oui, viens Jésus et tu te sentiras mieux. » Mais ça, c'est l'évangile à l'eau de rose, comme on dit si bien. Je ne sais pas comment tu peux traduire l'eau de rose, mais tu comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on essaye de te faire croire des choses qui ne sont pas réelles. L'évangile est une question d'éternité.
Ce
n'est pas une question de se sentir un peu mieux. Ah, viens prier, ça ira mieux. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus, ça. Venez à Jésus et vous serez bénis. Ce n'est pas pour cela que tu dois venir à Jésus. C'est pour savoir ce que tu vas vivre avec lui dans l'éternité, ce qu'il te propose, la grâce qu'il te propose. Alors que tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de la vie éternelle. Dieu te tend la main, sa main d'amour. Pour que tu puisses être dans l'éternité avec lui. Mais ce livre nous montre que le jugement dernier est une réalité. Et on n'a pas à prêcher un espèce d'évangile qui est complètement dilué. Mais les gens doivent être mis en face de la réalité de l'éternité. Si tu meurs, que tu quittes ton corps, ton esprit et ton âme quittent ton corps. Et que tu n'es pas né de nouveau. Ce livre nous montre clairement que c'est la mort éternelle qui t'attend. Et ce livre, plus que tout autre, nous décrit exactement ce qui va se passer. Donc, ça montre aux pécheurs. Et vous savez, moi des fois je regarde des reportages ou des discussions avec des pécheurs à la télévision.
Mais
des fois c'est étonnant de voir comment ces gens connaissent des choses qui sont dites dans cette parole. Des pécheurs qui se moquent de Dieu. Mais ils connaissent très bien que la Bible parle du jugement dernier. Ils s'en moquent. Et pourtant, c'est une réalité que Dieu a écrite dans sa parole. Bien sûr, quand tu regardes le monde, tu peux te dire oui, où est la victoire de Dieu dans tout ça? Il y a une bombe qui a un dépôt de munitions qui a explosé à Brazzaville, 200 morts. Il y a les Iraniens qui sont prêts à faire la bombe atomique. Il y a des terroristes au Soudan. Tu vois, il y a les crises économiques en Europe. Toutes sortes de choses qu'on entend. Tu peux dire où est Dieu là-dedans? Dieu se prépare un peuple. Dieu, pour l'instant, est dans le temps de sa patience. Mais nous allons voir, il y a un moment où Jésus va revenir chercher son Église. Enlever son Église. Et il y aura la première phase de la première résurrection. Et là, tout ce qui est écrit dans cet Apocalypse, nous le verrons à partir du chapitre 5. Tout le reste va se mettre en marche. Exactement comme c'est écrit ici. Donc nous devons savoir ce que Dieu va faire. Parce que vous verrez aussi qu'il y a certains événements dont nous allons participer, dans lesquels nous allons participer. On verra qu'à la fin de la tribulation, nous serons avec Jésus pour écraser les armées qui auront envahi Jérusalem. Tu seras sur ton cheval céleste dans l'armée du Seigneur. Mais t'inquiète pas, tu seras tellement puissant que tu viendras juste en conquérant avec Jésus à ta tête. C'est marqué dans la parole, frères et sœurs. Nous régnerons avec lui pendant 1000 ans à Jérusalem.
C'est
on verra tout ça. Mais il y a un événement qui va déclencher tous ces événements prophétiques. Nous verrons que c'est l'enlèvement de l'Église. Dixième chose, quand nous étudions l'Apocalypse, c'est de faire attention aux spéculations de ce qui se passe dans le monde, les événements. Parce que bien des fois, et les chrétiens quasiment de toute génération ont fait cette erreur. Ils ont regardé un certain nombre de choses qui se passaient. Par exemple, nous découvrirons qu'au 1er siècle, il y avait un empereur qui s'appelait Néron.
Empereur
romain. Et cet empereur a persécuté les chrétiens, c'était terrible. Il en a mis des dizaines et des dizaines de milliers à mort, mais d'une façon horrible. Et les chrétiens étaient persuadés que c'était l'Antichrist. Non. Quand Hitler est venu au pouvoir et a massacré tous les Juifs, croyez-moi, les églises dans la Deuxième Guerre mondiale se demandaient s'ils n'étaient pas en train de vivre ça. L'Apocalypse, c'est-à-dire la tribulation. Et bien des fois, les gens ont spéculé et spéculé et spéculé. Sauf qu'ils avaient oublié une chose. C'est que pour que les événements se produisent tels que c'était écrit après l'enlèvement, il fallait qu'Israël soit reconstitué. Et Israël, comme nous le verrons, n'a plus existé en tant que nation de l'an 70 après Jésus. Donc il y avait déjà 25 ans alors que Jean a écrit l'Apocalypse. Il y avait déjà 25 ans où Jérusalem avait été détruite par les Romains, où la nation d'Israël n'existait plus en tant que nation. Et ça a duré presque 19 siècles. Ensuite, quand nous lisons un certain nombre de choses, on parle du temple de Jérusalem. Et aujourd'hui, le temple de Jérusalem n'existe pas encore. À la place du temple, il y a une mosquée. Et croyez-moi, le jour où cette mosquée va être démolie, vous allez en entendre parler partout. Parce que le temple sera là. Entre temps, évidemment, ça va chauffer. On ne sait pas comment ça va chauffer, mais ça va chauffer. Donc déjà, même quand la reconstitution d'Israël était un événement important pour se dire, ah, on est proche du retour de Jésus.
kuba igihugu cha Israel cyasubiye hamwe byonyene byari kuba ibintu bivuga bati Yes agira zere.
Mais l'autre élément qu'on n'a pas pour l'instant c'est le temple. Mais nous verrons que petit à petit il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Mais
ce n'est
pas encore là. Petit à petit il y a des choses qui se mettent en place qui permettront de voir ces fameuses 7 années de tribulation qui sont très décrites avec beaucoup de détails dans l'Apocalypse se produire. Mais en attendant ce n'est pas encore possible. Donc attention quand nous voyons des événements se produire. Ce n'est pas aujourd'hui que les Iraniens enverront des bombes atomiques sur Jérusalem et Israël et détruira. C'est Ahmadinejad ne détruira pas Israël. Parce qu'Israël ne sera pas détruite. Et avant qu'Israël subisse vraiment beaucoup de pression de toutes les nations et de la part de l'Antichrist à leur tête, toi et moi, on ne sera plus ici. Et je vous montrerai pourquoi l'enlèvement va se produire. Pourquoi il y aura le premier retour de Jésus. Et ensuite, pourquoi il y aura le deuxième retour de Jésus. Jésus, nous le verrons, viendra pour son Église dans le premier retour. Et il viendra pour Israël avec nous dans son deuxième retour. Donc, les événements qui se passent dans ce monde ne sont dus ni plus ni moins à quoi ? Au résultat du pire des gestionnaires qui gèrent les systèmes de ce monde et qui s'appelle le diable. Je vous ai dit une chose. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Un royaume que Dieu a voulu sur la terre. Mais ce royaume a été perdu. Il est en cours de restauration. Et un jour, il sera pleinement en accomplissement. C'est ça la Bible. C'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, frères et sœurs. Car Jésus a dit que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Pour l'établissement et l'accomplissement de son royaume.
On
appellera la consommation du royaume de Dieu. Donc, pour l'instant, tout ce que vous pouvez voir à droite, à gauche, les guerres, Israël menacé, les famines, les crises économiques,
etc.
Ce n'est pas décrit dans l'Apocalypse.
La
première guerre mondiale n'a pas été décrite dans l'Apocalypse. La deuxième guerre mondiale n'a pas été écrite dans l'Apocalypse. Aucun des événements qui se produisent dans le temps de la grâce. Parce que les gens disent, ah, les tremblements de terre. Oui, Jésus a parlé de tremblements de terre. Matthieu 24. De guerre et de bruit de guerre. Ah, Matthieu 24. Et Apocalypse. Non. Nous verrons que non. Tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse. Et d'ailleurs, dans Matthieu 24 aussi, ce sont des événements prophétiques pour ce qu'on appellera la dernière semaine d'année de Daniel, les 7 dernières années, c'est-à-dire la tribulation. Mais je vois trop de gens, trop de prédicateurs. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, ah, Israël est menacé par les Iraniens. Oui, 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 dans, il y avait à côté de Babylone, oui, oui, c'est marqué dans l'Apocalypse. Non. Même les Américains ont cherché à savoir et ont essayé de trouver des versets qui montraient que leur nation était une nation prophétisée dans la Bible. Non.
n'abanyamerika baragerageje kurondera ukuntu mu ijambo ry'Imana bosanga igihugu cyabo ariko gucavuzwe muri bibiliya basanga nta kirimo.
Les choses qui sont prophétisées dans l'Apocalypse.
Ibintu byavugishijwe muri byanshura Yohana
vont être ordonnées par Dieu.
N'ibintu bizotegekwa n'Imana.
Non pas par le diable.
Apana Satan.
Ce n'est pas des destructions sataniques.
Sigusambura Satana zana.
Ça va être la colère de Dieu sur des hommes qui ont refusé et qui refusent encore de se donner à Jésus.
Sigusambura Satana zana tuzobona ahubwo ni ibihano cyangwa imanza z'Imana.
Ce seront des jugements.
N'imanza z'Imana zizoba.
C'est Dieu qui va venir frapper les hommes.
N'Imana izoza guhana abantu.
Là, c'est clair.
Aho biratomoye neza.
Je vous le dis et je l'enseigne souvent.
Ndabivuga ndakunze kubyigisha.
Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, Dieu n'est pas l'auteur des famines, Dieu n'est pas l'auteur des guerres.
Imana siteri ngwano, siteri ingwara, siteri nzara.
Je me souviens pendant la guerre, les gens disaient "Oh, on prie pour que Dieu nous donne la paix."
Ndibuka mu ntambara abantu barasenga ngo turasenga Imana ngo iduhe amahoro.
Et je disais aux gens "Alors c'est Dieu qui a envoyé la guerre ici ?"
Acamugana none Imana niyo yatwaye amahoro, niyo yatumye haba intambara.
Le pire des gestionnaires gère la propriété de Dieu.
Oya umuntu umubwiriza mubi wa mbere abaho niwe atwaye ino si.
Comme c'est un voleur, un destructeur et un menteur.
Baravuga neza ngo ijambo ry'Imana ngo ni gisuma n'umusambuzi kandi n'umwicanyi.
Quand il peut trouver des êtres humains qui lui serrent la main en disant "Monsieur le diable, on est avec toi et on va détruire avec toi."
Ahuye n'abana b'abantu bavuga bati "Satani, erega turi kumwe wowe turashobora gukora."
Il se passe des catastrophes.
Hacha haba amayobera n'amakuba.
C'est tout à fait normal.
Nibisanzwe.
Donc ne regardez pas les informations en essayant et en essayant de les interpréter avec l'Apocalypse, parce que ça ne va pas ensemble, c'est faux. Je me souviens, il y a un ministère, entre guillemets, c'était un homme de Dieu qui prêchait l'Évangile. Et avec sa femme, ils ont complètement changé. Ils prennent toutes les coupures des journaux à droite et à gauche. Font des émissions de télévision qui d'ailleurs parcourent toute la terre. Pour aller raconter des choses avec l'Apocalypse et Daniel et Matthieu et blabla et blabla.
Bakagira ibiganiro bavuga ku bya Matayo bakavuga ibya Inshure bakavuga kuri Daniel bakavuga ibintu byinshi bitandukanye.
C'est triste et n'acceptez jamais ces choses.
Birababaje kandi ibintu nk'ivyo ntimukavyemere.
Ce qui se passe sur la terre aujourd'hui.
Ibiriko biraba ku isi uyu munsi.
N'a rien à voir.
Nta na hamwe bihuriye.
Avec ce qui va se passer.
Nibizoba.
Et je vous garantis quand ça va se passer, on va voir comment ça va se passer.
Ndababwiza ukuri nitwa nibyaba tuzobona ingene bizoba.
On va voir comment Dieu va envoyer ses jugements.
Tuzobona ingene Imana izorunga ikimanza zayo.
Et Dieu ne sera pas tendre, son église sera plus là. C'est pour ça d'ailleurs que l'église ne sera plus là.
Kandi Imana ntizoborohera na gato ishengero ryayo ntizoba rikiringana naco gituma
ishengero ryagiye. Ça suffit, je vous ai prévenu pendant ces milliers d'années.
Imana izovuga iti biragahera rero narabagabishije imyaka.
Je vous ai envoyé mon fils.
Nabarungiki umwana wa.
L'évangile a été prêché sur toute la terre.
Ubutumwa bwiza bwaravuzwe mu isi yose.
Maintenant, le temps de la grâce est terminé.
Uburere gihe cy'ubuntu kirarangiye.
On va voir qui est le maître ici.
Tugira turabenye n'isi uwari.
C'est ce que Dieu va faire.
Ibyo ni by'Imana izokora.
Et là, la Bible est claire. Là, la colère de Dieu va se manifester. Tant que Jésus n'est pas revenu chercher son église, la grâce est ouverte, c'est-à-dire même le pire des pires des pécheurs. Celui qui a été le plus loin dans le péché. Si vraiment il revient de ses mauvaises voies, Dieu par sa grâce le pardonnera. Purifiera son péché, le fera naître de nouveau et l'amènera dans l'éternité. Mais le jour où l'église sera enlevée et que les jugements de Dieu vont descendre, ça va faire très mal. Nous verrons qu'il y a des gens qui vont se convertir pendant la tribulation, mais ils vont souffrir. En tout cas, les événements que vous pouvez voir à la télévision, sur les journaux, à la radio, ne sont pas décrits dans la Bible et l'Apocalypse. Mais je sais que c'est tellement ancré dans les mentalités des chrétiens. Je pourrais vous donner exemple sur exemple sur exemple d'erreurs par rapport à
cela.
Où l'Église de Dieu a fait des choses parce qu'elle croyait que c'était marqué dans la Bible. Par rapport à des événements. Il y a plein de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'Église dans ce monde. Où les chrétiens ont interprété les choses par rapport à l'Apocalypse et c'est faux. Donc, c'est ces 10 choses dont nous devons constamment scanner pour éviter de tomber dans les erreurs classiques qu'on entend à propos de l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, comme nous le verrons, n'est pas le seul livre qui parle de la fin des temps. Nous allons étudier un certain nombre de livres en parallèle. Et particulièrement le livre de Daniel, qui était d'ailleurs appelé par certains commentateurs bibliques l'Apocalypse de l'Ancien Testament.
Et
nous verrons quelque chose sur le prophète Daniel. Il va recevoir des révélations que Jésus va reprendre dans Matthieu 24. Et qu'on retrouve en grande partie aussi dans l'Apocalypse. Sauf que nous découvrirons que Daniel était limité dans la révélation que Dieu lui avait donnée. Et nous étudierons les 70 semaines d'années de Daniel. Et nous verrons que Daniel, lui, ne voyait pas le temps de l'Église, le temps de ce qu'on appelle la dispensation du mystère, c'est-à-dire le temps de la grâce. Dieu va lui donner des révélations jusqu'au moment où Jérusalem va être construite. On étudiera ça, je vous expliquerai cela. Et jusqu'à la fin des 70 semaines d'année,
490
ans. Et Daniel ne pouvait pas comprendre parce qu'il n'avait pas une certaine révélation que nous avons. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Nous, l'Église de Dieu, nous avons plus de révélations que ce qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient des révélations très limitées. Particulièrement sur le royaume de Dieu. Nous le verrons, je vais vous le prouver dans l'Écriture. Et je vais vous donner beaucoup d'explications, ça va beaucoup vous aider à lire ces livres-là. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, on lit le livre de Daniel, ou certains prophètes de l'Ancien Testament, quand on lit certaines de leurs professions, on se dit qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça me concerne. C'est vrai que nous découvrirons qu'il y a des prophéties de l'Ancien Testament qui ne concernent qu'Israël. Dans la période où c'était donné, ou les quelques dizaines d'années, voire les siècles, juste après ce que le prophète allait donner. Mais aussi, il y a certaines prophéties qui concernent la fin des temps. Donc nous étudierons le livre de Daniel en parallèle, bien évidemment. Ensuite, nous étudierons Matthieu, parce que dans Matthieu, il y a des éléments sur la fin des temps. On étudiera aussi Zacharie et les deux épîtres aux Thessaloniciens. Et puis, de temps en temps, nous ferons appel à quelques livres qui nous donnent des compléments sur certaines révélations. Donc c'est pour ça que cette étude va être quand même une étude assez importante et assez longue. Et c'est pour ça que vraiment je vous encourage à venir à chaque session, parce que si vous loupez une session, vous n'allez plus très bien comprendre la suite après. Alors maintenant nous allons voir le plan de l'Apocalypse. Et on va découper ce livre en pas mal de avec les chapitres, avec les passages, etc., etc. Et nous verrons donc tout au début, bien sûr, une introduction dans Apocalypse 1, chapitre 1, verset 1 à 3.
intangamarara kuri iki gitabo umurongo wa mbere gushika kwa gatatu ivyashuro hano gice ca mbere.
Ensuite nous verrons la première vision.
Hama tuzovuga ukwe iyerekwa rya mbere ryabonetse.
Chapitre 1 verset 4.
Igice ca mbere umurongo wa 4
jusqu'au verset 20.
Gushika ku murongo wa 20.
Où en fait Jean va avoir la révélation de Christ glorifié. On va revenir là-dessus. Là je vous donne le plan mais on va bien évidemment détailler ce plan passage après passage.
Aho Yohana yeretswe Kristo ya ishizwe hejuru tuzogenda turavuga ko igice kimwe inyuma y'ikindi.
Ensuite, on verra au chapitre 2 et au chapitre 3, nous allons découvrir le message aux sept églises. Et nous verrons qu'à partir de la fin du chapitre
3,
l'église ne sera plus sur la terre. Donc vous ne verrez plus l'église sur la terre. Par contre, c'est là où juste après, il y aura justement le déclenchement de la tribulation. C'est alors qu'à partir du chapitre 4, il va y avoir la deuxième grande vision que Jean va avoir. Au chapitre 4, nous allons voir une scène céleste absolument fabuleuse qu'il y a au troisième ciel. Donc nous verrons le monde invisible du trône de Dieu. Nous verrons ce qu'il y a autour du trône de Dieu. Nous verrons donc les chérubins et les séraphins, ces créatures angéliques de très haut rang. Nous verrons qu'il y a 24 trônes autour du trône de Dieu. Nous comprendrons ce que ça veut dire. Voir comment Jésus est glorifié dans le ciel. Puis au chapitre 5, il va y avoir donc le déclenchement de la tribulation. Alors là, la Bible va nous parler de la tribulation pendant plusieurs chapitres. Et en fait, on va voir que c'est l'agneau seul qui va ouvrir le livre des sept
sceaux.
Et donc, à partir du chapitre 6 de l'Apocalypse, c'est là où il va y avoir les sept sceaux qui sont ouverts, c'est-à-dire les jugements qui vont commencer au début de la tribulation. Ce que Dieu va envoyer alors que l'Église sera déjà enlevée. Et nous étudierons, par exemple, le premier sceau, ça sera l'ange destructeur qui va venir pour vaincre, c'est-à-dire les jugements de Dieu sont arrêtés à ce moment-là.
On
verra l'ange qui enlève la paix. Le troisième saut, l'ange qui détruit l'économie. On verra le quatrième ange qui va juger les habitants de la terre et il y aura un quart des habitants qui vont mourir. Ensuite, le cinquième sceau, on verra la vision de ceux qui sont morts pour Christ pendant la tribulation. Le sixième sceau, toujours Apocalypse 6, on verra comment Dieu va envoyer, là c'est Dieu qui va envoyer des catastrophes naturelles pour dire qui tient le monde entre ses mains.
Parce
qu'aujourd'hui, vous savez, les hommes pensent que le monde est venu par lui-même. Bon, beaucoup de croyants disent, oui, c'est vrai, il y a un Dieu, mais alors avec tout ce qui se passe là, pourquoi est-ce que Dieu permet ça ? Ensuite, nous verrons que très souvent, quand Dieu va envoyer sept fléaux, sept sceaux, sept jugements, très souvent, au bout du sixième, après, il y a toujours une parenthèse qui nous est décrite dans l'Apocalypse. Ici, après le sixième sceau, il va y avoir la parenthèse des Juifs et des païens qui vont être sauvés pendant la tribulation.
Et
ça va occuper le chapitre 7. Ensuite, il va y avoir l'ouverture du septième sceau. Donc l'agneau qui ouvre les sceaux, je vous rappelle, le livre scellé avec les sept sceaux. Et là, le septième sceau va avoir sept trompettes. Il va y avoir sept trompettes de sept jugements encore dans le septième
sceau.
Nous découvrirons qu'il y a le feu qui va brûler un tiers de la terre. Des tsunamis, deuxième trompette, et des éruptions volcaniques. Troisième trompette, la pollution des sources d'eau. Ensuite, quatrième trompette, des cataclysmes célestes au niveau du soleil et de la lune. Cinquième trompette, il va y avoir les créatures qui gardent l'enfer sous l'autorité de Dieu, qui sont relâchées pour faire du mal aux hommes. Rappelez-vous, nous sommes dans des jugements là. Dieu vient et la frappe. Il frappe. Et à chaque fois, les hommes ne voudront pas se repentir en grande majorité. Au contraire, entre temps, il va y avoir ce gouvernement mondial qui va monter. Nous étudierons ce fameux antichrist qui va travailler avec un prophète, un faux prophète. Comment il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles surnaturels, mais sataniques. Des confrontations de puissance comme la terre n'aura jamais connu, et Satan va essayer de faire un maximum pour enlever pour prendre un maximum de gens, et Dieu entre temps va envoyer ses jugements. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est extraordinaire, mais il ne faut pas être dans les mains de Dieu quand il est en colère. Soyons bien clairs. Il vaut mieux toujours être du côté de l'amour de Dieu. Parce que ceux qui seront châtiés par sa colère, croyez-moi, ça va faire mal. Parce que là, Dieu ne va pas faire les choses à demi-mesure. Dans l'Apocalypse, c'est clair. Dieu envoie ses jugements et frappe. Et beaucoup de gens vont faire des trafics démoniaques comme il n'y aura jamais eu sur la terre. Parce que nous le verrons, l'église ne sera plus là. Des gens qui vont quand même accepter Jésus pendant cette période-là. On viendra, on les mettra à mort directement. Il y a beaucoup de persécutions. Beaucoup de sang versé. Beaucoup de choses qui vont se passer qui vont être terribles. Mais Dieu va envoyer ses jugements. Et Satan va travailler avec son antichrist et le faux prophète. Alors ensuite, après la sixième trompette, là encore, après le numéro 6, qu'est-ce qui se passe? Une parenthèse. La patience de Dieu qui est résolument finie. Dieu dit, c'est terminé maintenant. Vous savez, la patience de Dieu dure depuis très longtemps, déjà depuis plus de 2000 ans pour la grâce. Mais cette patience a une fin. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Nous sommes, Dieu soit béni, dans cette période de grâce. Vous savez, avec tous les gens qui disent Dieu a dit alors que Dieu n'a jamais parlé, s'ils étaient du temps de l'Ancien Testament, ils seraient foudroyés. Vous sommes vraiment dans les temps de la grâce. Et un jour, ça va se terminer. Et croyez-moi, la tribulation, c'est vraiment la fin de la grâce, dans le sens où Dieu va envoyer ses jugements. Il laissera juste une petite porte entrouverte pour que les gens, au prix de leur vie, se donnent à Jésus. Donc chapitre 10 et chapitre 11 jusqu'au verset 14, on verra que la patience de Dieu est résolument finie. Et aussi, dans ces passages-là, nous verrons qu'il y a deux témoins que Dieu a qui vont confronter justement l'antichrist et le faux prophète. On étudiera ce que sont ces deux témoins. Ensuite, il va y avoir la septième trompette qui va être l'accomplissement. On verra que le chiffre 7 est souvent un aspect d'accomplissement, accomplissement des jugements de Dieu. Et là, on verra la gloire et le règne de Christ et les récompenses de ceux qui l'auront servi. On verra ça dans Apocalypse 11, du verset 15 à 19. Ensuite, au chapitre 12, on va d'un seul coup s'arrêter devant les événements prophétiques qui ont couru jusque-là. Parce que Jean va voir différents focus sur la tribulation. Voyez, la tribulation va nous montrer d'abord tous ces passages qu'on a vus là pour l'instant, qu'on a résumés. Ça nous montre tous les jugements pendant la tribulation. Ensuite, Dieu va faire des parenthèses pour nous montrer un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Avec Israël, avec Jésus qui va naître à partir d'Israël, etc., etc. Et puis après, eh bien, on va voir pendant la tribulation. Alors là, on revient sous un autre angle dans la tribulation. Où Dieu va nous montrer comment il va y avoir l'avènement de l'Antichrist. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? On parlera du gouvernement mondial. Est-ce que vous voyez là, on entend parler de la mondialisation. Ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer. La seule chose que vous pouvez retenir de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que globalement, grâce aux technologies, on est capable d'unifier des gens qui communiquent dans le monde. Mais le gouvernement mondial sera fait à partir de puissances spirituelles qui utiliseront certainement des moyens technologiques. Mais ce n'est pas les moyens technologiques qui font qu'aujourd'hui on est pratiquement au début d'un antichrist qui pourrait se lever. Il y a beaucoup de mélanges dans la tête des gens. Rien ne se passera tant que Jésus n'a pas enlevé son église. Tant que l'église est là, il ne se passera rien. Parce que tout ce qui est décrit ici, c'est à partir du moment où l'église n'est plus là. Parce que Dieu ne peut pas envoyer ses jugements sur son peuple. D'ailleurs, quand vous regardez un peu comment Dieu a envoyé ses jugements sur l'Égypte, qui a toujours été épargné? Son peuple. Et c'est la même chose pour nous. Dieu enverra ses jugements sur la terre, mais son peuple ne sera plus là. C'est pour ça que l'enlèvement se passera avant tout ça. Donc, au chapitre 12, il va y avoir une espèce de rétrospective. Là, on va revenir en arrière, l'origine du diable, des démons, Israël, etc. etc. Le déchaînement des puissances sataniques contre Israël. Et puis après, à partir du chapitre 13, eh bien, nous allons découvrir comment, en fait, on revient un peu en arrière avec au début de la tribulation, là. Comment les choses du côté satanique.
Vous
voyez, au début, dans l'Apocalypse 4, 5, 6, etc., jusqu'à 8, 10, 11, 12, là, 10 et 11, on a vu du côté divin. Ensuite, chapitre 12, on fait une rétrospective, on explique le schéma global avec Israël et la persécution contre Israël. Et puis à partir du verset 13, on va voir comment Satan va mettre en place ces histoires d'antichrist, de faux prophètes, etc. et comment ils vont défier le peuple de Dieu et Dieu encore. On verra aussi les fameux 144
000
au chapitre 14. Et comment, donc au chapitre 14, on verra comment les anges de Dieu vont mettre en place la victoire finale. Et c'est là où il va y avoir l'annonce des sept derniers fléaux, ce qu'on appelle les sept coupes de la colère de Dieu.
Dieu
va envoyer les ulcères dans la première coupe. La mer va se changer en sang dans la deuxième coupe. Les sources d'eau vont être changées en sang, en imbuvable.
Mais
ça va être mondial. Ensuite, la quatrième coupe, ça va être le feu qui va brûler les hommes. Cinquième coupe, les ténèbres sur le royaume de l'Antichrist. Ça sera donc chapitre 15 et 16, tout
ça.
Ensuite, l'assèchement du fleuve Euphrate, sixième coupe. Et là encore, à partir du numéro 6, il y a une parenthèse. Comme nous l'avons vu avec les sept sceaux. Et là, il va y avoir la préparation sur la bataille d'Armageddon.
Chapitre 13 à 16.
Ensuite, la septième coupe. Et c'est toujours final. Quand c'est numéro 7, ça veut dire que c'est final. Là, ça sera la destruction de Babylone. Babylone qui représentera les systèmes politiques et économiques de ce monde. On parlera de cette fameuse prostituée, ces pouvoirs politiques sataniques, justement, qui marchent avec Babylone.
Donc
chapitre 17 et 18, jusqu'à temps justement que ces systèmes soient détruits. C'est là où je vous disais que Dieu va changer les choses. Il va venir établir son royaume et il est obligé de le faire en phase. Et on verra pourquoi il y a des systèmes de ce monde actuel.
Et
comment Dieu va les détruire. Alors ensuite, au chapitre 19, il va y avoir ce qu'on appelle une doxologie céleste, c'est-à-dire la gloire qui est rendue à Dieu pour la destruction de cette prostituée, c'est-à-dire celle qui est l'image, en fait, des systèmes politiques et économiques régis par le diable et ses démons. Ensuite, chapitre 19, versets 7 à 10, nous verrons les noces de l'agneau, ce que c'est. Ensuite, le deuxième retour de Christ avec ses saints, nous verrons comment ça va se passer quand Israël va être au bord du gouffre, de la destruction. Jésus va revenir pour Israël et là, il va y avoir une conversion d'Israël absolument phénoménale, un réveil en Israël où ils vont voir celui qu'ils ont percé, comme nous le verrons. Donc, Apocalypse
19, versets 11 à 16.
Ensuite, nous verrons la fameuse bataille d'Armageddon, cette bataille finale qui va écraser Jésus avec nous les saints. On va écraser toutes ces armées qui seront contre Israël. Et il y aura la victoire finale de Christ.
Ce
qui sera la fin de l'Apocalypse 19. Ensuite, au début de l'Apocalypse 20, on verra que Satan va être lié parce qu'il va y avoir le millénium, le règne de Christ sur la terre à Jérusalem pendant 1000 ans. Et on parlera du millénium parce que c'est important à comprendre aussi pour nous les chrétiens. Nous découvrirons ce qui va se passer à ce moment-là, comment Jésus va établir son règne et on verra que la terre va connaître une prospérité, une paix qu'elle n'a jamais connue avant. C'est normal, le mauvais gestionnaire aura été chassé et maintenant l'excellent, le meilleur des gestionnaires et le propriétaire de la terre, c'est lui qui régnera. Donc il y aura de l'ordre. Et là, on va voir que les prophètes de l'Ancien Testament avaient une certaine révélation sur le millénium. Parce qu'évidemment, Israël est concerné. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Israël où Israël deviendra la nation la plus puissante du monde. C'est là où ça se passera. Donc Apocalypse 20 va nous en parler, il va nous parler de la deuxième phase de la première résurrection et puis du millénium au début du chapitre 20. Ensuite, dans la suite du chapitre 20, on verra que Satan va être libéré pour très peu de temps et jeté dans le lac de feu et de soufre. On va expliquer cela. Et il va essayer de faire un dernier coup contre Dieu et son peuple, mais ça ne marchera pas. Et le chapitre 20 de l'Apocalypse se terminera par le jugement dernier, dont nous allons parler aussi. Ensuite, il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On va voir les cieux et la terre renouvelés. Nous verrons vraiment dans le grec ce que ça veut dire. Apocalypse
21:1-8.
Et là, on voit, le mal est complètement éradiqué. Satan et ses démons sont complètement hors d'état de nuire. Ils sont dans le lac de feu et de soufre. Tous ceux qui sont ressuscités pour la deuxième résurrection sont dans le lac de feu et de soufre. Ils sont passés par le jugement. Et à ce moment-là, Dieu recrée la surface de la terre, comme nous le verrons, recrée les cieux. Pourquoi ? Pour qu'on puisse vivre avec lui. C'est ce qu'on voit à la fin de l'Apocalypse 21 et au début de l'Apocalypse 22. Et là, Dieu règne avec ses saints. Et il est tout en tous. Il règne sur sa propriété.
Il
établit finalement son royaume. Et il n'y aura plus de possibilité de rébellion contre lui. Et puis l'Apocalypse 22 se termine par une conclusion et aussi des avertissements.
Il
nous montre clairement que la porte est encore ouverte, mais Jésus revient. Jésus revient et c'est pas une fable.
Ce n'est
pas une histoire que les chrétiens racontent. C'est une réalité du royaume de Dieu. Et Dieu nous montre clairement que ceux qui veulent entrer, la porte est ouverte. Mais qu'un jour elle sera fermée. Et ceux qui voudront être sauvés pendant la tribulation vont souffrir très sérieusement. Dieu réserve à l'homme la vie éternelle. Avec tout ce que cela implique et ce qu'il nous montre dans sa parole. Mais l'homme doit choisir. Et ça se passera comme Dieu l'a prophétisé, ça se passera souverainement. C'est-à-dire, ce n'est pas conditionnel. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans ce livre, ça se passera exactement comme c'est écrit. Nous avons la grâce de connaître ces révélations en avance. Nous avons le message qui permettra à ceux qui l'entendront et l'accepteront qu'ils soient avec nous pour l'éternité. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous exhorte et je vous dis une chose. Nous ne sommes pas en train de jouer dans une cour de récréation. Nous ne sommes pas en train de jouer à l'église. Mais nous sommes en train de construire un royaume éternel. Que chacun d'entre nous, nous verrons si nous sommes nés de nouveau. Et comme le dit la fin de l'Apocalypse, il dit, viens Seigneur Jésus. C'est notre espérance. Tout commencera quand Jésus va revenir la première fois. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour chaque personne ici, Seigneur. Je prie vraiment pour que la révélation de ta parole puisse être très forte et très puissante dans ce peuple. Afin que ce soit un peuple de conquérants. dans cette vie et dans la vie éternelle. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.